Chapitre 4. Depuis le jour où il avait quitté Liane, rue Rosa Bonheur, Pierre Neuhart avait vécu dans une sorte d'ivresse. Sa vie passée lui semblait à présent odieuse et il s'étonnait de ne pas l'avoir remarquée plus tôt. Il se revoyait à côté des gens avec lesquels il entretenait quelques relations et il ne se reconnaissait plus. Les passants étaient tristes. Les souvenirs les plus doux le laissaient froid. À part Eliane, plus rien ne comptait. Il avait comme la sensation que plus personne ne s'occupait de lui, ne le voyait même, comme si le bonheur l'avait rendu transparent, léger, indifférent à l'humanité entière. Il y avait une distance nouvelle entre chaque être et lui. Ceux qui peinaient, il les apercevait dans le lointain, continuèrent à travailler sans lever la tête, simplement plus petits, car ce qu'il y avait d'extraordinaire dans son bonheur, c'est qu'il ne suscitait aucune envie. Sa joie était débordante. À la femme de ménage qui le servait, il raconta les histoires les plus bêtes, si bien que la vieille ménagère, stupéfaite, ne sut pas ce qui lui arrivait. Il y eut pourtant une anicroche. Simone en fut la cause. Son instinct féminin l'avait averti de ce qui s'était passé. Aussi, pour refroidir son patron, avait-elle dit simplement « Ne riez donc pas tant, on vous reverra dans 3 mois !» Ces mots glacèrent Pierre Neuhart et, s'il n'eut pas craint de se trahir davantage, il lui remerciait sur le champ. L'après-midi, pour écarter tout soupçon, il vint à son bureau à l'heure habituelle, en se contraignant à prendre un masque grave. Puis, à la première occasion, il glissa cette phrase « J'étais de bonne humeur ce matin, mais vous aviez raison, cela ne dure pas. » Comme Simone répondit « Vous voyez que je vous l'avais bien dit !» Il ressentit un profond soulagement, tellement il lui eût été intolérable de songer que l'on pouvait souhaiter que son bonheur ne durât pas. Le soir, il dîna dans un restaurant, puis se fit conduire dans un grand café des boulevards. Sentir la foule l'entourer lui était agréable. Il avait bu un peu plus qu'il n'était accoutumé de le faire. Quelquefois, son attention était distraite par un passant, et quand, de nouveau, l'image des lianes se présentait devant lui, une telle bouffée de bonheur l'envahissait qu'il eût été aussi heureux dans une rue déserte, sous la pluie, n'importe où, lui qui, jusqu'alors, avait toujours fui avec tant de soin les lieux désagréables, les quartiers sans communication, enfin tout ce qui dégageait de l'ennui. Il se gardait pourtant de songer au rendez-vous, afin que l'appréhension qu'elle ne vînt pas ne ternît point cette journée. Quelquefois, cependant, cette crainte se glissait en lui. Il avait alors l'impression que cela eût été tellement cruel de ne pas venir, tellement méchant, que le monde eût été unanime à trouver cela tellement bas et lâche qu'il lui semblait impossible qu'une enfant aussi frêle pût encourir ainsi le mépris de tous. Les jolies femmes le laissaient indifférent et c'était comme une vengeance qu'il exerçait de les regarder sans les désirer. D'ailleurs, tout le laissait indifférent, les journaux, la politique à laquelle il s'intéressait en tant que partisan d'un dictateur. En rentrant, le soir, il trouva un pneumatique de Simone. « Monsieur Sillet a téléphoné, » écrivait-elle avec mauvaise humeur, « pour une commande. Il retéléphonera demain matin à 9 heures. Il m'a prié de vous prévenir. » C'était tout. « C'est la bonne passe, » songea Pierre Neuhart. « Pourvu que ça dure, » ajouta-t-il, afin d'obéir aux besoins fréquents chez lui, d'opposer aux événements exceptionnels le langage de tous les jours. Quand Eliane pénétra dans le salon de thé, il crut qu'il ne pourrait parler. Il lui semblait que sa langue était redevenue celle d'un enfant, qu'elle avait perdu le pouvoir de former des mots, qu'elle existait simplement comme ses doigts. Cela dura une seconde, pendant que ses yeux se portaient justement avec admiration sur la jeune fille. Elle avait un chapeau qui découvrait son front. Une main était dans la poche de son manteau. Elle tendit l'autre franchement, sans oser pourtant regarder Pierre Neuhart dans les yeux. Sa première parole fut pour dire qu'elle avait failli ne pas venir, ayant assisté dans l'après-midi à un concert qui s'était terminé beaucoup plus tard qu'elle ne l'avait pensé. Elle s'assit comme une visiteuse qui n'a que quelques minutes à accorder. Visiblement, elle était gênée. En parlant, elle regardait autour d'elle, mais dès qu'elle faisait face à Pierre, elle baissait la tête. Brusquement, elle changea de place en disant « J'aime mieux être là. » Elle était si nerveuse qu'elle fit tomber son sac. Comme Pierre Neuhart le ramassait, elle rougit jusqu'aux oreilles. L'âge et la gravité de son interlocuteur lui imposaient. La considération qu'il lui témoignait la mettait mal à l'aise. Il la traitait en femme, alors qu'on la présentait encore aux messieurs, qu'elle se levait pour tendre la main. C'était, sans doute, à cause de cette politesse qu'elle avait observée chez les gens âgés, qu'il était aimable. Mais si elle rougissait de ce rendez-vous, elle ne se souvenait pas d'avoir serré si fort, l'autre soir, la main de cet homme. Elle s'était, inconsciemment, libérée de sa nervosité sur celui-même qui l'avait provoquée, et parce qu'il y avait là une sorte d'obéissance à l'instinct, elle ne s'en était même pas aperçue. « J'ai eu peur que vous ne veniez pas, » dit Pierre Neuhart, qui, avant de prononcer la moindre phrase, la tournait et retournait dans son esprit de crainte de blesser la jeune fille. « Mais j'ai failli ne pas venir, » répondit Eliane pour s'excuser d'être là. « D'ailleurs, il faudra que je parte tout de suite. » Elle n'avait pas osé dire « il faut ». Il y avait ceci de touchant qu'elle craignait d'être impolie. Dans les semaines qui suivirent, elle vint pourtant chaque fois au rendez-vous que lui fixa Pierre Neuhart. Sa gêne disparaissait peu à peu. L'amour qu'il avait pour elle et qu'elle sentait à la douceur qu'il lui témoignait en lui parlant, à la lumière qui éclairait son visage quand elle arrivait, à son anxiété quand il espérait quelque réponse favorable, ne lui inspirait aucune frayeur parce qu'il demeurait caché et que jamais il ne se montrait autrement. Lentement, elle s'habituait à lui. Elle avait de plus en plus conscience de son pouvoir. De deviner qu'il suffisait qu'elle prononçât un seul mot pour que cet homme obéît, fit qu'elle ne tarda pas à se rendre vers lui comme auprès d'une amie. Elle lui racontait ce qu'elle faisait, mais jamais elle ne lui parlait de sa mère. L'amour-propre l'empêchait d'avouer la vérité. Elle avait honte de sa situation de famille. Quand, parfois, Pierre Neuhart lui posait une question, elle mentait alors avec un calme effrayant, allant jusqu'à dire que sa mère avait été une grande actrice sous un nom de guerre qu'il connaissait certainement, mais qu'elle ne voulait pas, pour de vagues raisons, lui dire qu'avant de quitter la scène, ils avaient habité un hôtel particulier à Auteuil. Elle racontait alors sa genèse, donnait le nombre de ses gouvernantes, inventait des voyages. Pierre Neuhart écoutait tout cela avec ravissement. Il se sentait, à côté d'elle, rude et grossier, et son amour ne faisait que s'en accroître. Il aurait voulu, lui aussi, parler de musique et d'art, mais le champ des sujets qui lui étaient accessibles lui paraissait alors, par contraste, d'une médiocrité lamentable. Quand il était seul, il réfléchissait. Probablement qu'à présent leur situation de fortune a changé, pensait-il. Ils doivent avoir des valeurs d'avant-guerre. Le père est mort, la mère âgée. Cela le remontait, car il avait l'impression que seule sa situation, son activité, son travail imposaient à Eliane. Comment eût-il pu en être autrement, puisqu'il n'était plus très jeune et que la guerre et les fabriques lui avaient donné une nature rustre? De même qu'Eliane n'avait pu croire que c'était pour sa beauté qu'il s'était intéressé à elle, de même il ne lui venait pas à l'idée qu'il eût pu plaire par la délicatesse et par la profondeur de son amour, qualité qui, lui semblait-il, devait se rencontrer partout. Il la voyait de plus en plus souvent. Il lui apportait tantôt des fleurs, tantôt des boîtes de bonbons, tantôt encore de petits objets pour mettre dans son sac. Elle acceptait ses présents avec joie, mais après un moment, comme si elle avait réfléchi, son visage s'embrunissait. Elle écartait d'elle les fleurs et les bonbons et semblait rêver. La première joie passée, les cadeaux faisaient sur elle une impression étrange. Les rubans, les papiers fins, les coussinets de satin sous les couvercles, les noms des commerçants écrits en lettres d'or, lui apparaissaient comme les bribes d'une fête dont elle soupçonnait l'existence. Tout cela était encore imprégné de la chaleur des magasins élégants. Cette richesse lui faisait peur, comme si elle eût eu le pressentiment que ce luxe était trop précieux pour se perdre sans autre raison que celle de lui faire plaisir. Elle regardait alors Pierre Neuhart avec méfiance, cherchant à deviner quel obscur piège il cherchait à lui tendre. Il ne comprenait pas, touchait ce qu'il avait apporté, comme pour montrer qu'il n'y avait aucun danger. Le recul d'Eliane l'affligeait. Il le mettait sur le compte de l'éducation. On lui avait sans doute appris à ne jamais accepter quoi que ce fût d'un étranger. Il repoussait alors tristement les cadeaux, les cachait dans ce même papier que la jeune fille avait défait avec tant de ravissement, et changeait la conversation. Mais le lendemain, c'était plus fort que lui, il achetait un autre présent. Il croyait alors qu'il s'y était mal pris pour le donner. Il arrivait les mains vides, puis, après un instant, il le tirait de sa poche et le posait comme distraitement devant la jeune fille. « C'est pour vous, » disait-il. Et vite, il parlait d'autre chose. En partant, s'il l'avait tellement distraite qu'elle n'avait pas touché au petit paquet, il ne pouvait s'empêcher de dire sur un ton de reproche « Alors, vous n'avez pas regardé ce que je vous ai apporté ?» sans se rendre compte qu'il avait justement tout fait pour qu'elle n'y touchât pas. Car dans la vie rude qu'il avait menée, jamais il n'avait vu donner quoi que ce fût. Chaque chose se gagnait par la ruse ou par le travail. Aussi, le fait de donner lui semblait-il empreint d'une telle douceur qu'il ne pouvait voir Eliane sans désirer lui offrir tout ce qu'il possédait. Et cela le plongeait dans une stupéfaction sans borne qu'une telle générosité fût accueillie avec une telle méfiance. En sortant du salon de thé, ils allaient souvent se promener sur les boulevards ou aux alentours de l'opéra. Dehors, Pierre Neuhardt se trouvait plus à l'aise. Il avait l'impression que les gens qui marchaient lui ressemblaient plus que ceux qui étaient assis, que le rang social qu'il occupait était plus élevé, car, en croisant les passants, il reconnaissait des employés, des fonctionnaires, des ouvriers, et rarement des hommes dont la situation lui paraissait plus importante que la sienne. Il devinait qu'au milieu de cette foule, Eliane se trouvait plus attirée vers lui, qu'il la protégeait, qu'elle lui en était inconsciemment reconnaissante. Il lui parlait alors presque sans interruption, semblable ainsi à cet officier qui, au cours d'une visite du fort qu'il commandait, avait eu tant de choses à lui dire. Il lui expliquait les arrêtés préfectoraux concernant la circulation, le rôle des agents, jusqu'où allaient leurs droits, l'importance d'un magasin d'aspect quelconque, les raisons du prix élevé de la publicité et une foule de détails semblables. Lorsqu'un sujet avait intéressé la jeune fille, il ne l'oubliait pas. Le lendemain, il lui apportait d'autres précisions et, si elle était pas trop curieuse, des preuves qu'il avait été chercher lui-même dans quelques bureaux. Elle les examinait avec lui. Rien n'était plus agréable à Pierre Neuhardt que d'intéresser la jeune fille et surtout que de l'étonner. Petit à petit, elle prenait goût à ses conversations et lui posait des questions dans le genre de celle-ci. Qu'est-ce qu'une banque ? Cette simple interrogation suffisait à le plonger dans l'affolement. Il prenait cela tellement à cœur qu'après avoir fait un exposé simple, il lui disait d'attendre au lendemain. En la quittant, il passait sa soirée à se renseigner, à prendre des notes, à éclaircir les explications, à remplacer les mots techniques et, en revoyant Eliane, seulement si cela l'intéressait encore, il la renseignait, s'aidant de croquis, faisait des plans pour qu'elle comprît mieux. Quand il avait fini, elle le remerciait en riant gentiment. Il la contemplait alors avec admiration, portant ses yeux sans se lasser sur toutes les parties de son visage, cherchant quand même, pour obéir à quelque obscur instinct, un défaut qu'il ne trouvait pas. Son regard allait aux oreilles, aux dents, aux narines, et toujours une perfection identique le frappait. Même le front était parfait. Les cheveux commençaient juste où ils devaient le faire. Parfois, en la regardant ainsi, il se rappelait comme elle lui avait pressé la main le premier soir qu'il l'avait accompagnée. Alors il ne pouvait croire que ce serrement avait existé, tellement cette jeune fille semblait lointaine, tellement elle semblait incapable d'un geste pareil. Et en réfléchissant, il trouvait que si elle lui avait ainsi serré la main, ça avait été parce qu'elle perdait l'équilibre, ou plutôt parce que, voulant partir plus vite, elle s'était appuyée sur lui pour prendre son élan. En dehors des regards, des attentions, des cadeaux, des reproches pour une minute de retard, il n'y avait rien qui signalât l'amour de Pierre Neuhardt. Pourtant, Eliane devenait plus coquette. Elle qui, jusqu'à ces dernières semaines, n'avait pris aucun soin de sa toilette, elle commençait à observer les autres femmes, à vouloir qu'il y eût de l'harmonie entre la couleur de son chapeau et celle de sa robe. Elle se mettait de la poudre avec des gestes qui commençaient comme ceux de toutes les femmes, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de parodier sur la fin. Pierre Neuhart lui avait appris l'écarté, et souvent il lui demandait de jouer l'heure du rendez-vous du lendemain. S'il gagnait, c'était lui qui le fixait. Si elle gagnait, c'était elle. Mais si, victorieux, il lui proposait de dîner ensemble, toujours elle refusait. Pourtant, un soir, elle lui demanda « Pourquoi voulez-vous dîner avec moi ?»« Parce qu'après, nous pourrions aller au théâtre ou au music-hall. » Elle répondit « Je préfère le music-hall. » Pendant la représentation, il se passa un incident qui plongea Pierre Neuhart dans une gêne indescriptible. Au milieu de la deuxième partie du spectacle, un chanteur comique entra en scène. Après avoir exécuté quelques pitreries, il commença à débiter des obscénités, mais avec un air tellement candide que la salle entière riait aux larmes. Il accompagnait, en outre, ses histoires de gestes d'une vulgarité dont l'exemple le moindre était d'enlever un de ses souliers, de l'approcher de son visage et de le jeter avec dégoût. Pierre Neuhart était en nage. Il n'osait se tourner vers Eliane. Il comprenait qu'elle devinait son trouble parce qu'avant, il lui avait continuellement parlé à voix basse et qu'à présent, il se taisait. Avec anxiété, il guettait les gestes du comique. À chaque nouvelle grossièreté, il espérait de toutes ses forces que c'était la dernière, mais une autre ne manquait pas de suivre aussitôt. À un moment, il risqua un regard vers Eliane. Comme lui, elle était rouge. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'était son expression. Sa tête était légèrement penchée en avant, comme si elle n'eût pas voulu qu'on sût qu'elle regardait, ses yeux grands ouverts, mais la bouche, elle, serrée d'une manière inhabituelle, c'est-à-dire que ce n'était plus la lèvre du haut qui avançait le plus, mais celle du bas. Ainsi jointe, comme si elle n'en eût se formé qu'une, les deux lèvres remuaient par moments très vite. Lorsque le rideau tomba, sans que l'expression qu'elle avait eue en regardant l'acteur eût disparu, elle leva deux yeux étonnés et tristes vers Pierre, des yeux semblables à ceux des enfants qui ne pleurent pas quand on les bat, puis, brusquement, cacha son visage contre son épaule. Le dimanche qui suivit, elle accepta de venir chez lui afin de lui apprendre à danser et de faire jouer le gramophone. On était dans les premiers jours de décembre. Le temps était brumeux et froid. Lassé de traîner dans les thés et les cafés, Pierre Neuhart avait supplié Eliane de passer l'après-midi de ce dimanche chez lui. Tant d'arguments s'étaient pressés sur ses lèvres qu'elle avait fini par céder. À peine entrée dans le salon, elle s'assit tout de suite sans ôter sa fourrure et, en regardant la pointe de ses pieds, dit « Faites jouer votre phono !» Pierre Neuhart obéit, mais elle n'écouta pas, jetant de temps en temps un regard furtif autour d'elle. « Ce disque ne vous plaît pas ?» demanda-t-il. « Si, si, il me plaît. Remettez-le encore une fois. » À la fin, pourtant, elle consentit à enlever sa fourrure. Aussitôt après, elle se leva, fit quelques pas. Comme sans y penser, il s'était approché d'elle pour lui montrer un disque, elle se rassit brusquement. Quelques minutes après, elle se leva de nouveau, alla à la fenêtre, regarda les arbres du boulevard que l'on apercevait à peine dans le brouillard. « Voulez-vous que je vous fasse visiter cet appartement ?» lui demanda Pierre Neuhart. « Mais je le connais ?»« Non, il y a une autre pièce ici. Venez. » Il ouvrit la porte de la salle à manger. Elle s'approcha, regarda avec curiosité les meubles de citronnier, puis, revenant dans le salon, s'arrêta auprès d'un petit secrétaire. Lentement, tout en regardant Pierre dans les yeux, elle leva le pupitre. « Je peux fouiller ?» interrogea-t-elle. Puis, sans attendre la réponse, elle le referma et s'éloigna. Pierre Neuhart, qui, à son tour, avait ouvert le meuble, l'appela. « Tenez, venez voir, il n'y a rien de bien extraordinaire. »« Oh non, non, je disais cela comme cela, vous pouvez avoir ce que vous voulez. » À ce moment, la vieille servante apporta le thé. Eliane l'examina longuement. Elle avait un air de plus en plus étrange. On eût dit qu'avertie d'une machination, elle attendait qu'on se trahît. Tout l'intriguait, mais c'était sans hâte qu'elle passait d'une chose à l'autre. Cela vous a peut-être fait de la peine que je vous ai invité ici ? Demanda Pierre, qui redoutait maintenant d'avoir blessé la jeune fille en la conduisant chez lui. Eliane se mit à rire. « Non, pourquoi ? Au contraire, vous êtes très gentil. Mais je ne sais pas... » Pierre la regarda, il la trouvait plus calme, moins enfant. « Voulez-vous que nous partions ?»« Nous partirons tout à l'heure. » Elle s'assit sur un divan. Craignant de l'importuner de ses questions, il remit le phonographe en marche. Alors, pour la première fois, elle parut écouter avec intérêt. À mesure que le disque tournait, Pierre Neuhart remarqua que l'attention d'Eliane croissait. Elle semblait avoir complètement oublié où elle était. Tout à coup, il eut peur. Cette attention, qui se manifestait par un frémissement de la lèvre supérieure, par un tremblement des mains, par les yeux grands ouverts, il venait de lui apparaître que ce n'était pas la musique qui la suscitait. Un instant après, le gramophone s'arrêta, mais Eliane semblait toujours l'écouter. « Qu'avez-vous ? » demanda-t-il anxieux. Au même instant, elle sourit. « Mais rien, j'écoutais la musique. » La nuit tombait déjà. Au milieu de l'ombre qui gagnait la pièce, on apercevait, de-ci, de-là, quelques objets brillants. « Je voudrais que vous allumiez, » fit Eliane. Il tourna le commutateur, puis revint auprès du gramophone. Lui qui, d'ordinaire, parlait tout le temps, il se taisait. On eût dit qu'il pressentait que, dans un instant, il serait abandonné. S'il avait osé, il eût demandé à Eliane de partir, d'aller avec elle se promener sur les boulevards où il lui parlerait, où tout serait oublié. Mais elle semblait si tranquille sur le divan, si calme. « Vous vous ennuyez peut-être ici, » dit-il au bout d'un instant. Elle ne répondit pas, il s'approcha d'elle, mais s'arrêta à quelques pas. « Vous avez quelque chose. Qu'est-ce que vous désirez ? Dites-le-moi, je le ferai chercher. » Il se sentait une envie de pleurer qu'il réprimait de toute sa volonté. Elle leva les yeux, les baissa, les releva encore. Elle était pâle, et pourtant, une sueur fine couvrait son front, brillait légèrement sur ses épaules. Son visage était tiré, comme si elle venait de passer une nuit blanche. Elle serra ses bras contre son corps. Brusquement, elle eut quelques gestes qui n'avaient aucune raison d'être. Elle posa une main sur sa poitrine, l'ôta, cacha durant une seconde sa bouche, toucha ses cheveux, et brusquement, éclata en sanglots. Il s'assit à côté d'elle, affolé, la serra doucement dans ses bras. Elle sanglotait en imprimant à son buste un balancement. De temps en temps, elle gémissait. Soudain, elle se laissa aller. Sa tête tomba en arrière. Ses yeux, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Pierre Neuhart la pressait contre lui, essayait de la réconforter. Il voyait le visage d'Eliane ruisselant de larmes, mais détendu tout près du sien. Elle ne se défendait plus quand il la serrait plus fort. Elle s'abandonnait. À cette seconde, devant tant de faiblesse, il sentit quelle force et quelle volonté elle avait eue jusqu'à ce jour. Elle avait refermé les yeux. Il la porta alors sur son lit, retendit, la couvrit, et, s'asseyant à côté d'elle, lui prit une main. Elle semblait apaisée. Elle ne pleurait plus. Sa respiration se faisait de plus en plus régulière. Lorsque ses paupières se relevèrent, elle promena autour d'elle un regard indifférent, puis, à la vue de Pierre à son chevet, elle détourna lentement la tête, mais laissa sa main dans la sienne.